Radio Okapi. Écho des développements. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Codes et Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et développement durable sur Radio Okapi, magazine que je coanime avec Sarah Sumbela, à qui je dis bonjour.
Bonjour Tati Mapoukou, salut à tous les auditeurs et auditrices.
Comment améliorer la production agricole en RDC?
C'est à cette question principale que nous allons tenter de répondre au cours de ce magazine radiophonique.
Jean-Marc Matouaki coordonne et supervise ce numéro et Willem Lungamba s'occupe de la mise en onde de Codes Développement. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce numéro de Codes Développement.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiokapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiokapi.net. Et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiokapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le ministère de l'Agriculture a convoqué du 27 au 29 septembre 2022 les états généraux de l'agriculture en RDC afin d'adopter les stratégies de la relance du secteur agricole. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé a indiqué que son équipe gouvernementale a pris l'option de ne pas reposer toutes les actions du développement de la RDC sur les recettes générées par les mines. Il est temps que les sols prennent sa revanche sur les sous-sols, avait-il dit.
Comment améliorer la production agricole en RDC?
Avant de répondre directement à cette question, Sarah, cette question principale de ces numéros des codes de développement, donnons d'abord la parole, Sarah, à nos auditeurs qui pensent que la relance du secteur agricole en RDC passe par la promotion de l'agroforesterie et par la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles, celles qui ne nuisent pas à l'environnement auprès des communautés paysanne.
Moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est d'abord mettre fin à la pauvreté. Si cette population arrive à agir ainsi, c'est parce que la pauvreté est toujours permanente. Comment on peut songer à interdire l'accès dans toutes nos forêts là, si on n'a pas encore résolu la question de la pauvreté? Moi, je pense que ça ne peut pas se tenir debout. Il faut d'abord penser à mettre fin, une fois pour toutes, à la pauvreté. L'employabilité des jeunes fait défaut toujours. On est entré tout. Il y a des jeunes qui s'initient, des millions et des millions, qui défendent des mémoires, des thèses. Mais malheureusement, il n'y a pas d'emploi. Et encore, chercher à interdire la population. Moi, je pense que c'est nous exposer encore davantage.
Moi, je me localise avec mon intervention dans la province du Haut-Lomami. Dans les territoires de Bukama. Là où il y a une grande partie de la population qui vit au bord de la rivière, ce sont des riverains, et une partie dans les Kapamaï. En commençant par Luena, Kapamaï, Kilomboï, Kazaza, Kalomba, ainsi de suite. Donc ces gens vivent cochant des surbrûlures. Il n'y a pas des intrants. J'avais eu de oui dire en disant que le ministre avait interdit d'utiliser les intrants puisque ça dégrade les sols. Alors, pour avoir les intrants, c'est défricher les forêts partout là-bas. Alors, et que les forêts reste le premier bailleur de nos gens qui sont de l'autre côté là de Kayeye, en coupant les braises. Pour préparer, il faut avoir les braises, soit avoir les bois. Et pour avoir des maïs, il faut défricher les forêts. Mmh. Comment ces gens, l'État va se retrouver à les interdire, à faire à couper les bois? C'est pratiquement impossible. S'il veut réussir, il faut qu'il préconise des moyens de trouver des solutions à part déboiser et à part préparer la cuisson avec des braises, qu'il trouve autre moyen pour bypasser cette situation. Je vous dis, on a essayé de nous réorganiser à l'Ouena avec l'ONG Mutufuate, avec le génie, l'agronome de formation Albert Kabinga, vieux Onésime et Papa Rex. Et on était assisté par un agent de la GECAMINE, le chef de la GECAMINE de l'Ouena. On s'est réorganisé avec l'ONG Mutufuate. Donc l'ONG prenait le reboisement. Et valoir, donner un peu quelques valeurs à ces gens pour que les gens tournent les dos aux forêts. Juste là, monsieur Tati, nous n'avons pas encore trouvé de solution. On a écrit partout. Notre invité qui est au studio, qu'est-ce qu'il va aider à l'ONG Mutufuate? Pas tout le monde, l'ONG Mutufuate à l'Ouena, pour que cette ONG soit subventionnée ou soit assistée pour réussir ces étapes de reboisement. Deuxièmement, quelles sont les méthodes alternatives qu'il va trouver pour interdire les gens de mon coin à ne pas couper les bois et à ne pas utiliser les intrants? Notre invité qui est au studio va nous donner, je dis et je vous remercie, M. Tati.
Moi, je pense que, loin d'être contredit par l'invité, l'alternative la plus adaptable, c'est l'agroforesterie. Parce que dans l'agroforesterie, on peut régénérer la forêt par la... sur les moyens économiques, sur les moyens sociaux et sur les moyens même culturels. Imaginez-vous, moi je vais vous faire un exemple ici chez nous au Maniema. Nous avons par exemple la chefferie de Bakwang. C'est une chefferie à 90% une chefferie savanicole. Donc c'est au moins un quart de forêt. Et là nous avons des forêts de galeries. Mais malheureusement, cette forêt de galeries est attaquée par les gens qui font c'est quoi? Les étangs piscicoles, les chats qui cultivent les pavillons et tout ça. Et donc, moi, je pense que si ces gens se focalisent dans l'agroforesterie, dans ces savanes, il y a moyen de pouvoir régénérer cette forêt et par les arbres, par exemple, fruitiers. Et quand on voit ces arbres fruitiers, on peut régénérer l'économie de la province et du secteur de ce secteur-là de Bakwang et de
Tatimoko. Oui, mais est-ce que les communautés aussi paysannes pratiquent l'agriculture sur brûlis à chaque saison culturelle?
Tout à fait, tout à fait. Voilà pourquoi il y a lieu de faire cette sensibilisation dans ce sens, pour peut-être informer les gens sur l'agroforesterie. Parce que, vous savez, l'ignorance, quand ces gens ne sont pas informés, on va du péril à la demain. Et donc, c'est déjà un danger. Dans 15 ans, moi, je pense que la situation sera beaucoup plus chaotique. D'où, il faudra informer cette population pour qu'ils puissent pratiquer au moins l'agroforesterie, Tati.
Merci beaucoup Jean-Claude. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kindu, au Maniema, que vous avez pris la parole. Merci beaucoup, bonne journée à Kindu. Cette fois-ci, allons au Kasaï Central, pour donner la parole à Kachai. Bonjour.
Bonjour Monsieur Tati Mapoukou et bonjour à l'invité de la radio Okapi.
À vous la parole, allez-y, on vous écoute. Merci.
Oui, oui, merci beaucoup Monsieur Tati. Je n'ai pas beaucoup à demander à l'invité. Je voulais un peu qu'il puisse nous préciser. S'il s'inscrit en faux contre la culture par brûlure pratiquée par les communautés locales, alors il propose quoi? Il propose quoi pour permettre aux communautés locales quand même de survivre? Parce que c'est souvent lorsque pendant certaines saisons, les communautés locales font des champs et ils brûlent ces champs-là pour fertiliser les sols. Parce qu'ils disent que la cendre fertilise les sols. Maintenant, lui ne veut pas que les champs soient brûlés par les communautés locales pendant les saisons agricoles. Alors, il propose quoi en lieu et place?
Oui, mais dites-moi d'abord, Kachai, dites-moi d'abord, est-ce qu'au niveau de Kanyoka, les paysans recourent à cette pratique régulièrement?
C'est ce que nous faisons ici, M. Tati. Moi-même, je suis l'agriculteur. J'ai vu de l'agriculture. Et quand on fait déjà deux champs, on attend que le champ soit séché par le soleil. Et après ça, et puis après, nous allons brûler le champ. On brûle, après la brûlure, on passe à la période des semailles et on commence à semer les semences. Alors, c'est pourquoi lui ne veut pas que nous puissions semer. Or, s'il ne veut pas que nous puissions brûler. Or, si vous ne brûlez pas, vous ne brûlez pas, il n'y aura pas une bonne récolte. Le sol ne sera pas fertile.
Oui, mais s'il vous plaît, Kachaye, il y a une idée qui me traverse l'esprit. Dites-moi, là où vous avez brûlé la terre pour fertiliser le sol, il faut utiliser ces lopins de terre hein, pour la culture. Est-ce que vous revenez au même endroit à la prochaine saison agricole ou vous changez d'esprit
non,
de
non.
lieu?
Non. Il y a ce que nous appelons mettre le sol en jachère ou soit en isolement. Le mettre en jachère, c'est-à-dire, vous avez déjà cultivé, alors, une année après, vous ne revenez pas sur le même sol-là. Alors, ça, c'est mettre le sol en jachère pour le permettre de...
Se régénérer.
De régénérer, de se fertiliser de lui-même.
À nouveau, ok, naturellement.
Vous laissez un temps. Ouais. Maintenant, l'isolement, c'est à tout moment, par exemple, par rapport à la culture des arachides. Monsieur Tati, nous pouvons revenir sur le même sol chaque année. Mais c'est là, en faisant en sorte que l'on puisse mettre même le feuillage, le feuille morte des arbres, nous allons mettre dans le champ là, pour que l'année prochaine, nous puissions revenir encore.
Il faut cependant reconnaître, Tati, que les fermiers congolais éprouvent de nombreuses difficultés telles que les manques de semences améliorées et de certains outils aratoires.
Oui, Sarah, il faut noter que tous ces problèmes hein, que rencontrent les paysans congolais figurent dans les champs d'activité de l'Institut national des études et de la recherche agronomique, INERA en sigle, issu de l'appendice de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique du Congo belge.
Comment fonctionne cette institution de recherche agronomique depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours?
Le professeur Jack Lutala Dione Bambi, directeur général de l'INERA, répond.
Bonjour.
Comment pouvez-vous, d'entrée de jeu, nous présenter l'INERA?
L'INERA, c'est une vieille institution qui, à l'époque coloniale, s'appelait INEAC. INEAC, ça voulait dire à l'époque Institut National d'Études Agronomiques au Congo, créé par arrêté royal en 1933. Et c'était une institution qui devait s'occuper de recherches agronomiques dans le monde ou dans le milieu tropical. Qui travaillait sur les aspects, n'est-ce pas, de production agricole, mais également sur les aspects de recherche sur les plantes et qui s'est élargi, en fait, sur les recherches sur les cultures, hein, notamment les cultures pérennes à l'époque, parce qu'à l'époque, l'objectif de la colonie, c'était également de maximiser les ressources par rapport à l'exportation agricole, ce qui fait que le Congo de l'époque coloniale avait fait beaucoup d'avancées en matière de recherche sur le palmier, sur le café, sur le cacao, sur l'EVA. Et cette institution, à l'indépendance, est devenue INERA. INERA, d'abord comme une entreprise publique, et plus tard, comme le cas aujourd'hui, comme établissement public. Donc c'est une institution qui est en amont de la production agricole pour justement renforcer l'agriculture, l'élevage et la pêche en apportant des technologies, des innovations, n'est-ce pas, et des pratiques agricoles qui permettent de valoriser les cultures, les productions animales et halieutiques et également de renforcer notre position par rapport aux activités forestières, agroforestières et de recherche-développement. Nous sommes juridiquement une structure avec une certaine autonomie. Nous dépendons du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique, mais nous avons un conseil d'administration. L'institution se trouve dans différentes écologies, c'est-à-dire bien dispersée à travers le pays. Nous avons 36 sites, y compris la direction générale, qui est basée à Kinshasa, dont le rôle est principalement la coordination des activités et la recherche, n'est-ce pas, de ressources financières pour que les activités de terrain puissent se faire de la meilleure façon possible. Nous avons des centres de recherche à l'intérieur, 5 centres, notamment le centre de recherche de Yangambi, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, INERA Yangambi. Nous avons INERA Nyoka dans l'Ituri. Yangambi, c'est dans la Tchopo. Nyoka dans l'Ituri, Voisi dans le Congo central, Gandajika dans le Kassai et Mulungu dans le Sud Kivu. En plus de ces 5 centres, n'est-ce pas, nous avons 29 stations de recherche éparpillées dans les différentes zones agroécologiques. Donc les 36 sites sont les sites de départ qui avaient déjà été mis en place depuis le temps colonial et que nous continuons à maintenir. Mais tout récemment, nous avons également créé, n'est-ce pas, suite à la demande, n'est-ce pas, et à la création de nouvelles provinces, il y a eu des demandes pour que la recherche se rapproche de plus en plus de communautés. Et nous avons maintenant à peu près 13 nouvelles stations, n'est-ce pas? Je peux vous les donner rapidement si vous voulez. Nous avons une station à Ikalata dans le Maindombe. Nous avons une station à Benalongo dans le Kasai, à Kinzao dans le Congo central, à Lubarika dans le Sud Kivu, à Idiofa dans le Kwilu, à Kalinda Kashila dans le Kasai oriental, à Katanda dans le Kasai oriental, à Masisi dans le Nord Kivu, à Kabaya Kamwanga dans le Kasai oriental, à Emilingombe dans le Tanganyika, à Walungu dans le Sud Kivu, à Walikale dans le Nord Kivu et à Salubeza dans le Maniema. C'est les nouvelles stations qui sont en train d'être créées, n'est-ce pas, pour rapprocher la recherche. Oui. Et nous avons en plus de cela deux nouveaux bureaux de liaison, parce qu'avant on avait un bureau de liaison seulement à Kisangani, maintenant on a un autre bureau de liaison à Goma et enfin un troisième à Mbujimayi, n'est-ce pas, dans le centre du pays.
Dans son discours programme, le chef de l'État a promis la revanche du sol sur le sous-sol parce que le secteur a connu une chute vertigineuse en termes de production depuis des décennies.
Oui, Sarah, la République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% seraient mises en valeur, faisant de ces pays le deuxième hein, de la planète en termes de terres arables cultivables disponibles après le Brésil. La diversité des climats, la bonne densité des réseaux hydrographiques et une main-d'œuvre abondante ont été cités comme des clés d'attraction pour les investisseurs. C'est à ce titre que le chef de l'État a inscrit ce secteur hein, comme l'un des piliers des développements de la RDC, souligne le professeur Peter Kasongo. Il est conseiller principal du chef de l'État sur les questions de l'agriculture.
Avant de vous répondre, laissez-moi vous ramener d'abord à l'historique de ce pays sous l'angle de la production agricole. Vous savez très bien que dans les années 60, bien avant même l'accès de notre pays à l'accession du pays à l'indépendance, la République démocratique du Congo était alignée parmi les principaux pays producteurs dans le secteur agricole et même exportateur de produits d'essence végétale, notamment toutes les cultures pérennes, essentiellement le café, le caoutchouc, le cacao, donc l'huile de palme, l'huile de palmiste. On produisait également du coton. Lorsque vous allez sous l'angle de produits des cultures vivrières, l'RDC ne dépendait d'aucun autre pays pour se nourrir. Le maïs, le manioc, les soya, tout ça se produisait sur place. Alors, d'année en année, le pays a commencé n'a fait qu'enregistrer des baisses constantes de niveau de production jusqu'à devenir aujourd'hui un importateur net de tout. C'est ça le plus grand scandale. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Les gens se posent des questions. Alors, le chef de l'État, qui s'était engagé bien avant, pendant la campagne, à pouvoir changer de paradigme, c'est-à-dire que le Congolais doit arriver à se nourrir de ce qu'il produit, et à se nourrir, à produire ce qu'il fait effectivement, ce qu'il produit exactement, à commencer par un premier pas, c'est le plus important d'ailleurs, c'est le diagnostic. Il y a eu au niveau du ministère les états généraux, c'était effectivement pour essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi jusqu'ici, tout ce qu'on a comme programme, qu'on lance avec pompe, n'arrive pas à produire, à générer les résultats attendus. Donc les états généraux ont eu, sous l'impulsion de son excellence, Monsieur le Président de la République, je crois que vous avez tout suivi, organisé par le ministère de l'Agriculture, avec bien sûr la participation des autres ministères liés, c'est le développement rural, pêche, élevage et d'autres partenaires techniques. Donc là, de cela, il s'est dégagé un certain nombre de constats avec des résolutions pour pouvoir arriver à mettre fin ou à juguler ce que nous avons comme carence en termes de capacité de production ou de productivité dans le secteur agricole. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État a pu faire jusqu'ici? Qu'est-ce qui s'est fait sous son impulsion? Je vous ai dit, on a organisé les États généraux. Après les États généraux, le pays s'est doté d'un document très important, c'est le document de politique de développement agricole durable. Et ça, ça vous donne des orientations stratégiques pour arriver à relever le défi en termes de production, assurer une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, une agriculture qui soit fondée sur des intrants d'accès facile, qui tient compte des priorités d'ordre environnemental et des besoins réels de nos communautés locales. Et donc ça, c'est un document très important. Aujourd'hui, l'effort est en train d'être fourni pour voir comment en arriver à des mécanismes opérationnels pour sa mise en œuvre. Alors, vous avez suivi que le chef d'État a été inauguré le centre de recherche à Bukavu. C'est très important parce qu'en fait, nous devons aujourd'hui comprendre que si on n'arrive pas à produire davantage, ce n'est pas forcément parce que le sol n'est pas de bonne qualité, c'est pas forcément parce que les conditions climatiques ne sont pas favorables, mais ça peut être également parce que nous n'avons pas des semences de très bonne qualité, des semences à très haute riposte en termes de rendement. Et donc c'est pourquoi nous devons nous doter de structures capables de mettre à disposition de tous nos paysans, de toutes nos communautés, tous ces ménages ruraux, des semences de qualité qui puissent garantir le rendement, de hauts rendements souhaités. Donc ça c'est très important, c'est l'une des raisons qui font que on n'arrive pas à produire davantage. C'est d'abord comment rendre accessibles les semences aux ménages ruraux, et pas n'importe quelle semence, des semences de qualité. Au-delà des autres facteurs, d'autres déterminants que nous connaissons, c'est le route de dessertes agricoles qu'il faut aménager, c'est l'accessibilité à d'autres intrants, par exemple les engrais, les matériels, les petits outils matériels agricoles, ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des investissements importants dans lesquels le chef de l'État s'est engagé par des actions réelles. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un programme très important, le programme des 145 territoires. On sait qu'il y a une composante importante, très importante, en rapport avec l'agriculture et également les infrastructures socio-économiques de base, parmi lesquelles nous avons le route des dessertes agricoles. Donc ça, ça fait partie de grandes réalisations qui sont en cours de mise en œuvre et dont les effets, vous les aurez pas aujourd'hui, mais d'ici la fin de l'année prochaine, je crois qu'on parlera un autre langage par rapport aux retombées de ce programme qu'on considère comme innovation sous l'impulsion du président de la République.
Tati, c'est aussi un secteur qui mérite un développement de chaîne de valeur pour avoir des millionnaires dans ce secteur.
Je suis totalement d'accord avec vous, Sarah. Une chaîne de valeur dans l'agriculture désigne l'ensemble des acteurs et des activités qui font passer un produit agricole de base et du stade de la production dans les champs à sa consommation finale, processus dont chaque stade voit de la valeur être ajoutée au produit. Et cela est prévu dans les programmes de la relance du secteur agricole en RDC. À en croire le professeur Peter Kasongo, nous rappelons qu'il est le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'agriculture.
Le ministère de l'Industrie travaille à même élaboré, il n'y a pas longtemps, il y a une année et demie, a élaboré un document aussi important. C'est le plan directeur d'industrialisation qui comprend dans certaines de ses lignes majeures la problématique de valorisation de tout ce que nous avons comme production d'essence agricole. Quand je dis valorisation, il s'agit de traitement, il s'agit de transformation pour que nous ne soyons plus ce pays qui dépend toujours de produits transformés importés. Donc il faudrait que selon les différents bassins de production que nous avons à travers le pays, on puisse installer des micro-usines, des micro-structures de transformation qui soient en mesure de mettre sur le marché local des produits donc qui ont subi quand même un traitement et qui sont prêts à être consommés pour réduire en fait la pression que nous avons vis-à-vis des importations. Et donc c'est un travail c'est un document stratégique très important. Et tous nous sommes en train d'élaborer aujourd'hui des petits plans stratégiques opérationnels pour voir culture par culture qu'est-ce qu'il faut faire avec les différents acteurs, notamment particulièrement les producteurs, pour pouvoir les doter des équipements, des micros et des équipements importants, des petits équipements, grâce auxquels ils peuvent réussir à franchir cette phase de transformation. Il faut commencer par là. Et aujourd'hui, je crois que vous avez suivi il y a 3-4 jours, lors du conseil des ministres dernier, le président de la République a, dans sa communication, parlé de la perspective de mise en place du conseil national présidentiel pour pour la transformation, le pacte de transformation des produits d'essence agricole. Et ça, c'est juste pour donner de l'impulsion à cela, parce que dans ça, vous aurez non seulement lui-même le chef d'État qui va présider ce conseil, vous avez le Premier ministre, vous avez les ministères sectoriels qui sont concernés. Et donc ça, c'est pas pour rien, c'est effectivement pour vous donner le tonus nécessaire afin que sa vision, qui est celle d'avoir un Congo qui se nourrit de ce qu'il produit, puisse prendre fermement forme dans quelques jours. Parce que nous avons eu beaucoup de politiques qui se sont annoncées ici, agriculture, priorité des priorités, agriculture, ceci, cela, mais ça n'a pas été suivi de fait. Les résultats à générer n'ont pas été observés sur terrain. Et donc nous sommes restés qu'avec des discours et des slogans pompeux. Aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut magnifier, c'est cette implication, c'est cette volonté ferme du chef de l'État de pouvoir faire de la culture la principale source des richesses pour notre pays.
Oui, professeur, nous rappelons que vous êtes le conseiller principal du chef de l'État sur les questions agricoles. Une autre réalité, il n'est secret pour personne, la partie est du pays, notamment les Nord Kivu et l'Ituri, sont en proie à l'insécurité, surtout dans les milieux reculés, et cela n'a pas permis aux terres agricoles de bien travailler. La même situation aussi s'est vue au plateau de Bateke, à la suite du conflit entre Teke et Aka, avec tout ce qui a comme de saison. Est-ce qu'à votre niveau, vous pensez à la mise en place d'un programme de résilience de ces communautés qui n'ont pas pu cultiver comme il s'est devait?
Mais je crois que c'est très important. Ce qui est d'abord essentiel, c'est la paix et la sécurité. Parce que quand vous n'avez pas la sécurité assurée pour vous-même, pour votre survie, comment vous avoir le moral pour vous concentrer sur les activités de production? Personne ne peut avoir le moral calme pour projeter sur ce qu'il doit produire, ce qu'il doit commencer à faire aujourd'hui pour que demain il récolte. C'est difficile parce que ce qui est d'abord essentiel, c'est sa survie. Alors dans ces conditions, vous voyez vous-même les efforts qui sont en train d'être déployés par le gouvernement pour amener la paix sur toute l'étendue du territoire, et particulièrement dans la partie est du pays. C'est parce que sans la paix, il peut y avoir développement. Sans la paix, personne ne peut produire. Sans la paix, personne ne peut développer des projets. Et sans la paix, on ne peut pas se développer. Donc sans la paix, il n'y a pas de vie. Donc ça, il est tout à fait normal que lorsque la paix, la sécurité sera rétablie sur le terrain du public, que ces communautés, que ces populations puissent faire l'objet d'un programme particulier de prise en charge, d'accompagnement pour pouvoir leur permettre de rattraper tant soit peu les opportunités perdues à cause de l'absence de la paix. Et pour cela, je crois que vous suivez de très bien, de très près, mais même des programmes. Un des programmes qui est en train d'être implémenté sous le leadership du président de la République en tant qu'autorité suprême, c'est le programme, le PDDRSS, programme de mobilisation, réinsertion communautaire et tout ce que vous savez. Donc ça a un volet très important de prise en charge de réinsertion. Et ça nous, et l'idée ici, ce n'est pas seulement qu'on s'occupe des populations, donc de ces unités, de ces éléments qui se sont démobilisés, mais également améliorer les conditions de vie des populations locales pour que parmi elles, les gens qui n'y aient plus de velléité entretenue de se rendre ou de constituer ou de se joindre à ceux qui sont à ceux de leurs amis ou de leurs frères qui sont dans des groupes dans des différents groupes armés. Donc c'est ça, une vision tout à fait holistique de prise en charge d'accompagnement et de projection d'activités qui doivent effectivement détourner totalement l'attention des jeunes surtout, et il s'agit d'eux, de civilité à pouvoir rejoindre, à pouvoir se retrouver dans des groupes armés pour des raisons essentiellement sociales.
Vous nous écoutez déjà en FM sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue dans Eco de développement, le magazine de Radio Okapi axé sur les questions de l'environnement et développement durable. Nous abordons dans ces numéros les sujets concernant la problématique de la relance du secteur agricole en RDC.
Quels sont les maux qui rongent les secteurs agricoles en RDC? Et est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place pour contourner ces difficultés?
Il y en a de plusieurs ordres, selon le professeur Jacques Loutaladio Nebambi, directeur général de l'INERA.
Que les fermiers congolais font face à plusieurs problèmes. Nous citons par exemple la présence sur les marchés des semences qui ont perdu leur faculté germinative et la prévalence de certaines maladies qui affectent les végétaux et les animaux d'élevage sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que vous avez des programmes, des recherches pointues sur ces fléaux qui affectent sérieusement les secteurs agricoles en RDC?
Exactement. Je parlais tout à l'heure des différents sites de recherche. Mais je voudrais, à partir de cette question, n'est-ce pas, vous dire également que nous avons des programmes au sein de l'INERA, des programmes nationaux de recherche sur différentes spéculations. Par exemple, nous travaillons dans la production végétale. Nous avons environ 7 programmes de recherche qui travaillent sur les fruits, les bananes, et le plantain. Nous avons un programme qui travaille sur le maïs. Nous avons un programme qui travaille sur le manioc. Nous avons un programme national sur le riz, nous avons un programme national sur l'horticulture, nous avons un programme national sur les légumineuses à graines. Ça, c'est sur la production végétale. Il y a aussi un programme sur les plantes à racines et tubercules, pommes de terre, patates douces. Et sur les cultures pérennes et industrielles, un programme sur le café, un programme sur le cacao, un programme sur le palmier à huile, sur les veillards, et un programme qui est en veilleur sur le coton. Et nous avons, au-delà de cela, des programmes d'appui, notamment sur la gestion, n'est-ce pas, et la conservation des ressources phytogénétiques, sur la gestion et la conservation des ressources naturelles, sur la recherche-développement, sur la foresterie, n'est-ce pas, pour accompagner tous les aspects qui vont avec, n'est-ce pas, la gestion de l'environnement, les aspects d'agroécologie, la biodiversité, n'est-ce pas, pour nous permettre, n'est-ce pas, de faire une agriculture durable, n'est-ce pas, et qui permet aux agriculteurs de bénéficier. À travers ces différents programmes que je viens de citer, nous avons des projets internes et des projets avec les partenaires extérieurs, n'est-ce pas. Si je prends l'exemple du manioc, nous avons un projet sur la striure brune du manioc, n'est-ce pas, et ce projet, n'est-ce pas, nous aide à lutter contre la maladie de la striure brune du manioc au niveau national. Et ce projet est appuyé par des partenaires extérieurs, non, dans le cadre de protocoles d'accord que nous avons. Et ce projet est tout à fait actif, n'est-ce pas? Et nous avons là-dessus l'appui de l'Institut international d'agriculture tropicale, l'ITA, qui nous accompagne dans le cadre de ce projet. Nous avons également, toujours sur le manioc, un projet qu'on appelle WEV, West Africa Virus Epidemiology, c'est-à-dire pour les études des virus du manioc, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, de façon durable, de rendre le manioc, n'est-ce pas, en milieu rural, capable de lutter contre l'épidémie de la striure du manioc. Nous avons sur le maïs, n'est-ce pas, un programme sur la chenille légionnaire, n'est-ce pas, qui permet de lutter contre cette chenille et qui fait déjà beaucoup de travaux en rapport avec le ministère de l'Agriculture, en rapport avec des partenaires comme l'USAID, n'est-ce pas, et qui nous accompagne. Et toujours sur le maïs, maintenant nous venons d'introduire un sous-programme de production des hybrides de maïs. Vous savez que le pays est très dépendant des importations de maïs des pays voisins, notamment de la Zambie et autres. Et nous sommes en train de faire des efforts pour que, en plus de ce que nous appelons de maïs OP, de pollinisation contrôlée, nous voulons introduire également des hybrides
pour que nous puissions en mesure, quand le secteur privé va se développer, n'est-ce pas, d'être en mesure de prendre ces semences-là et de pouvoir les vulgariser. Donc la semence constitue un élément important, n'est-ce pas, dans la production agricole, et nos programmes de recherche, notamment sur les cultures vivrières, mettent beaucoup d'accent dans la production du matériel souche et du matériel de base, c'est-à-dire des semences de base, qui sont mises à disposition des agri-multiplicateurs pour leur mise à échelle et augmenter les quantités de semences de bonne qualité qui peuvent permettre aux producteurs, c'est-à-dire les exploitants familiaux, les privés et les petites agro-industries qui sont dans la production agricole de pouvoir bénéficier de la semence de la bonne qualité.
L'agroforesterie est à même de contribuer à la relance du secteur agricole en RDC, selon plusieurs sources.
Tout à fait, Sarah. L'agroforesterie est un mode d'exploitation agricole qui associe la plantation des arbres et l'élevage du bétail. Suivons les explications du professeur Michel Mumba. Il est expert en agroforesterie.
Vous avez raison, monsieur Stati, mais je pense qu'il faut voir d'abord le contexte de notre pays, ou encore de tous ces quatre pays. Et d'abord, la pauvreté est extrême. Donc on peut pas directement empêcher les gens sur une pratique qu'ils ont déjà l'habitude de faire depuis trop longtemps, sans pour autant leur montrer comment
les alternatives.
Ouais. Et moi je pense que pour le moment il faut même pas parler des alternatives, il faut parler peut-être la complémentarité. Donc des activités complémentaires. Hein. Donc les gens peuvent au fur et à mesure de s'adapter à des nouvelles pratiques durables. Mais on ne peut pas les pousser de ton parce que c'est difficile. Moi, j'ai été sur le terrain beaucoup de fois et vous voyez que les gens sont déjà habitués avec ce genre de pratiques. Mais comment maintenant les pousser maintenant vers des pratiques plus durables? Il faut un temps.
Oui, pensez-vous que l'agroforesterie est l'une des méthodes qui peuvent servir en fait ces communautés-là?
Effectivement, l'agroforesterie, hein, donc ça a été initié depuis très longtemps. C'est une pratique ancienne, mais d'une nouvelle science, hein, parce que l'agroforesterie est née vers les années 1970 ou encore 70. Mais c'est une pratique qui date de très longtemps. Mm-hmm. Nous ici dans nos cultures, beaucoup de gens le font, même au village. Lorsqu'il y a intégration des liens pérennes. Quand on parle des liens, on voit les arbres, les arbustes, ou encore les lianes, ou les bambous, les palmiers à huile.
À huile.
Lorsqu'on l'intègre avec, on les intègre avec les activités agricoles, donc l'élevage et puis les cultures, nous, c'est ce qui fait parler de l'agroforesterie. Mmh. L'agroforesterie, c'est un mode de gestion des terres durables qui associe les cultures annuel, les arbres ou encore les liens pérennes, ainsi que les élevages.
Pouvez-vous nous faire une idée sur les réalisations de l'INERA dans le cadre de la relance agricole en RDC prônée par le chef de l'État?
Il y en a plusieurs, hein, d'après le professeur Jacques Loutaladio Nebambi, nous rappelons qu'il est le directeur général de l'INERA.
En fait, l'INERA qui travaille depuis plusieurs années dispose de beaucoup de réalisations et a atteint suffisamment de résultats pour impulser, n'est-ce pas, la production agricole dans le pays. Je peux citer quelques résultats ou quelques réalisations, si vous voulez. Des grandes réalisations. Par exemple, nous avons une grande diversité génétique, n'est-ce pas, de nombreuses variétés de cultures et également des géniteurs d'animaux. Et cette grande diversité permet justement d'avoir du matériel qui est résistant aux maladies, n'est-ce pas, et qui donne des rendements élevés. Et aujourd'hui, nous parlons du changement climatique, n'est-ce pas? Oui. Certains de ces matériels s'adaptent bien à tous les changements qui sont en cours. Nous avons également un matériel très important, n'est-ce pas, notamment sur les cultures pérennes. Quand je parle de cultures pérennes, j'ai des cafés, des cacaoyers, les palmiers, n'est-ce pas? Nous avons là-dessus des hybrides d'élite, n'est-ce pas, et des mélanges clonaux et polyclonaux qui peuvent nous donner des rendements intéressants si on doit relancer, n'est-ce pas, les cultures pérennes. Nous avons également des paquets technologiques qui permettent, n'est-ce pas, d'utiliser, n'est-ce pas, de la meilleure façon possible le sol, c'est-à-dire améliorer la fertilité des sols, maintenir les cultures par l'utilisation adéquate des engrais,
des associations de culture, les aspects d'agroforesterie. Tous ces aspects-là, tous ces éléments-là sont disponibles pour, n'est-ce pas, les producteurs. Maintenant, avec la recherche forestière et agroforestière, nous sommes en mesure maintenant de voir, par exemple, au niveau des Ngambi, quelles contributions nos forêts, n'est-ce pas, peuvent apporter dans le captage du CO2, n'est-ce pas, et comment, n'est-ce pas, les données climatologiques que nous avons accumulées depuis des décennies peuvent nous permettre de recadrer, n'est-ce pas, les dates de plantation et tenir compte de tous les phénomènes de changement climatique qui arrivent, la sécheresse ou l'excès de pluviosité. Voilà. Voilà. Et nous avons également des technologies pour la production des semences. Hein, comme vous savez, la semence, c'est un élément très important dans la production agricole parce que la semence, à elle toute seule, n'est-ce pas, peut contribuer à 35% du rendement. Et nous avons également des technologies post-récolte, n'est-ce pas, pour valoriser les produits agricoles nous avons, notamment dans leur conservation, dans leur réutilisation, ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là existent, mais il faut une bonne articulation entre la recherche et la vulgarisation pour que les communautés puissent bénéficier. Voilà, c'est comme ça que la recherche travaille avec le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, par exemple, nous avons, au niveau de la recherche, on a eu la présence de son excellent Monsieur le ministre Maître Josien Panda, n'est-ce pas, qui a fait un travail immense au niveau de la recherche scientifique et innovation technologique, qui maintenant se retrouve au ministère de l'Agriculture. Pour nous, vraiment, c'est une opportunité. Exact. Et pour rendre visible ce que nous faisons et pour valoriser les résultats de recherche à travers des structures du ministère de l'Agriculture, notamment le CNASM, qui nous aide, n'est-ce pas, dans le contrôle et la certification des semences, notamment le CENAFIC, qui est dans l'utilisation des engrais, et le SNV, qui est dans la vulgarisation. Et tous ces services, en synergie avec la recherche, peuvent aider justement à remettre l'agriculture en marche pour pouvoir contribuer justement à la vision du chef de l'État qui prône la revanche du sol sur le sous-sol.
Les secteurs agricoles, une fois développés dans les milieux ruraux de la RDC, peut aider à stopper l'exode rural.
Oui, Sarah, cet avis est largement partagé par les professeurs Peter Kasongo. Nous rappelons qu'il est le conseiller principal du chef de l'État sur les questions de l'agriculture.
Nous avons, en fait, je crois que je parlais tout à l'heure du programme des 145 territoires. Et je vous ai dit, dans ces quatre composantes, il y a une composante clé pour l'accompagnement, la structuration des plus de 500 ménages agricoles. Et donc, il faut les encadrer, il faut les accompagner, il faut renforcer leurs capacités, il faut les doter des intrants, des subventions nécessaires pour pouvoir leur permettre de se concentrer sur les activités et produire davantage. Mais il n'y a pas que cette composante-là. Donc là, je vous parle des 500 000 ménages. C'est un grand exploit, 500 000 ménages qui doivent bénéficier des subventions de l'État. C'est du conçu. C'est ce qui est en train de se faire. C'est un processus. Les agences qui ont reçu la charge d'implémenter cette vision sont en train de développer des mécanismes pour se faire. Mais je vous dis que il n'y a pas que ça. Lorsque on accorde plus de 50% des ressources du programme 55 territoires à doter les zones rurales des infrastructures socio-économiques de base, c'est pour quelles raisons? C'est pour effectivement étouffer cette tendance à pouvoir penser que les meilleures conditions ne sont qu'en ville. C'est pour effectivement faire en sorte que ceux qui vivent en milieu rural n'envient pas forcément ceux qui sont dans les milieux urbains et qui d'ailleurs ils sont mais ils meurent de faim. Donc qu'ils se concentrent en ayant le minimum de conditions acceptables. Qu'ils aient du courant, qu'ils aient de l'eau potable, qu'ils aient des écoles de qualité, qu'ils aient des centres de santé. Et voilà un peu comment, de manière tout à fait pratique, très utilitaire. Le chef de l'État entend aborder cette question d'amélioration des conditions de vie rurale pour effectivement faire en sorte que la main-d'œuvre qui est dans ce milieu rural puisse être utilement exploitée, puisse déployer tout ce qu'elle a comme potentiel dans ce même milieu afin de produire davantage.
Oui, mais en même temps, aussi une sous-question me vient à l'esprit, ça sera la dernière cette fois-ci, je vous assure. Il y a eu des cas d'échec par le passé, motorisation de certains agricoles, des cas de Bukangalozo, la population, est-ce qu'il y a vraiment des mécanismes qui ont été mis en place pour sécuriser tout ce projet afin qu'il soit matérialisé?
Ben, vous me parlez de Bukangalozo, je ne saurais pas m'étaler parce que vous savez que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on a parlé d'un procès Bukangalozo. C'est-à-dire qu'il y a eu à boire et à manger. Il y a des ressources qui ont été dilapidées, des millions qui sont sortis du trésor public, dont on n'a pas vu effectivement c'est à quoi ça servait. Aujourd'hui, je serai là pour vous parler de la vision du président de la République. Je vous dis que pour la première fois, nous avons un programme de développement qui se concentre sur l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural. Parce que le milieu rural, à un seul, regorge de près de 70%, je dirais même plus 70% de ce que nous avons comme potentiel, comme main d'œuvre dans ce pays. Alors, vous voulez développer le pays, vous voulez lutter contre la pauvreté, mais il faut commencer par la catégorie la plus vaste qui est exposée à cette pauvreté, ce sont les paysans, ce sont les populations rurales. Et donc ça, c'est une innovation. Et à ça, donc vous savez, à ça, c'est un financement de plus de 1,6 milliard. Vous direz que c'est modique, mais ça n'a jamais existé avant. Il faut commencer par quelque part. Ça, c'était un grand pas. Lorsque nous allons réussir à matérialiser, à exécuter, atteindre ne fût-ce que 70% des réalisations de ce programme, vous verrez vous-même les effets et vous suivrez, vous aurez les témoignages partout où vous serez dans le milieu rural. Et donc, ce n'est qu'un premier pas et qui va être, donc, ça va être redimensionné les années qui vont suivre, parce qu'en fait, c'est une première expérience, dont je dirais même une expérience pilote, mais je crois qu'avec le cadre institutionnel que le président de la République a mis en place, la réalisation pourra effectivement produire les effets attendus. Et sur base de ça, il y a moyen de redimensionner et nous assurer que les populations rurales n'auront plus demain, après-demain, à envier ceux qui vivent en ville, qui peut-être sont en ville, tout simplement parce qu'ils ont, du courant, ils regardent la télévision, ils ont de l'eau potable, mais peut-être qu'ils meurent de faim parce qu'ils ne produisent pas. Donc maintenant, il faut que c'est le temps de dépenser à produire par la base. Par la base, c'est où? À partir de nos milieux, de nos territoires, où nous avons l'essentiel de nos richesses, c'est le sol, c'est le climat qu'il faut valoriser, c'est la main d'œuvre. Alors, pour parler des équipements, oui, mais dans ce programme ici, il est prévu de doter ces ménages ruraux, ces agriculteurs, des équipements importants. Donc, ils vont avoir des intrants agricoles, c'est des housses, c'est des machettes, ainsi de suite. Il y aura des tracteurs pour permettre la mécanisation pour la production à une certaine échelle. Donc, ils auront accès à toutes ces possibilités qui vont leur permettre de tendre davantage des surfaces cultivées et de voir leur niveau de rendement s'améliorer davantage. Donc tout ça est prévu. Si par le passé ça a été des fiascos, c'est tout simplement parce que c'est des politiques qui sont concevées pour des individus et non pour la population, parce qu'on a vu que des tracteurs se donnaient entre des politiques et ainsi de suite, qui se trouvent aujourd'hui abandonnés en brousse parce qu'on avait donné à des gens qui n'avaient ni la tête ni l'esprit à l'agriculture.
C'est par ici que nous clôturons ce magazine Écho du Développement.
Oui, Sarah, c'est complètement fini hein, pour ce numéro consacré à la problématique de la relance agricole en RDC.
Tati, le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain.
En attendant, portez-vous bien et bonnes conditions d'écoute des programmes de Radio Capi.